sur le podcast des parents capés. Je suis Fanny Hartog. On le sait tous, être parent, c'est un lot de grandes joies, mais aussi de sacrés défis. Alors qu'en est-il lorsque l'on doit déjà jongler avec d'autres circonstances de la vie? Ici, vous rencontrerez des parents au super pouvoir qui ont un handicap, une maladie, ou bien les séquelles d'un événement traumatique. Si j'ai choisi de lancer ce podcast, c'est pour mettre en lumière ces difficultés parfois invisibles, mais aussi pour partager nos fiertés et nos accomplissements en tant que parents. Alors sentez-vous à l'aise ici, pas de jugement ou de tabou, juste nous. Pour ce deuxième épisode, j'accueille Sophie. Si comme moi vous aimez la pâtisserie, vous avez déjà sûrement bavé devant l'écran de votre télé en découvrant ses recettes. Et oui, elle a été finaliste au concours du meilleur pâtissier il y a 2 ans. Sophie a marqué les Français avec son tempérament toujours positif, son authenticité, son talent de pâtissière et son fauteuil roulant. Ce n'est pas commun de voir un ou une candidate en fauteuil roulant ou un autre handicap à la télé, et ça c'est bien dommage. Dans cet épisode, Sophie nous parle de son accident, de violence, de ses 6 enfants, du handicap qu'elle a d'abord connu avec l'un d'eux, mais aussi de son combat pour ne plus confondre accessibilité et adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite. Le tout avec beaucoup d'humour. Bonne écoute!
Bonjour, bonjour, je m'appelle Sophie Simon, on me connaît plus sous le nom de Sophie LMP, les initiales du meilleur pâtissier. Donc j'avais fait ce concours ça va faire 2 ans, enfin 1 an et demi maintenant. Voilà, suite à mon amour pour la pâtisserie, mon amour pour tout ça, et puis on est maman, on fait des gâteaux pour ses enfants. Après être confrontée à un jury comme ça dans un concours, c'est quand même assez improbable. Déjà d'avoir été sélectionnée, c'est un parcours du combattant, cette sélection pour le meilleur pâtissier. J'avoue que c'est déjà un concours avant le concours.
Ah oui, et comment ça se passe alors? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe.
Alors déjà, moi je ne me suis pas inscrite sur le site officiel. Inscrivez-vous si vous voulez faire des gâteaux à la télé. Moi j'avais envoyé un messenger à Cyril en lui disant que j'adorais cette émission, que c'était super, continuez comme ça, vous me faites rire, c'est merveilleux, c'est bon enfant, etc. Et en post-scriptum, j'avais mis, en revanche, j'ai jamais vu de personne handicapée à cette émission, est-ce que c'est rédhibitoire? Et je ne me doutais pas que cette simple petite question allait déclencher vraiment un truc incroyable. M6 m'a contacté. Au début, c'était un petit peu, j'avais senti un ton, est-ce que je suis en train de militer pour le handicap, etc. J'ai dit non, j'ai dit moi j'ai pas de problème, j'ai simplement des problèmes de mobilité, je suis en fauteuil, pas paralysée, donc je le précise toujours à chaque fois parce qu'il y a souvent l'amalgame entre fauteuil égale paralysie, ce qui est pas mon cas du tout.
Oui.
Et on est très nombreux d'ailleurs dans mon cas, mais en revanche sans mon fauteuil j'aurais pas pu faire ça c'est pas possible, et que c'est simplement parce que je me posais la question, et là il y a eu le début du casting, c'est-à-dire la conversation téléphonique. La casteuse m'a demandé de m'inscrire, donc parce que la première étape était passée, un peu dans le désordre, mais ça c'est pas grave. Et puis donc envoi de photos de gâteau. Ensuite c'était la petite vidéo. Donc à chaque fois ce sont des étapes éliminatoires pour certains. Et puis ça fait comme un entonnoir, comme toute sélection. Ensuite il y a l'épreuve des gâteaux et il y a le petit interrogatoire là pour voir si on passe bien à l'écran, je suppose. Et ensuite la sélection définitive, donc ça c'est au bout d'un mois et demi, 2 mois à peu près, où là on est convoqué les 40-50 qui sont sélectionnés sur les 5-6 000 du départ, parce que ça c'est énorme tous les ans. Et on va dans une école hôtelière qui est à côté de Paris. Et là, on est en condition de tournage, en condition d'émission, donc c'est assez intense, où on doit faire, et nous, c'était le thème souvenir d'enfance, ce qui correspond à la créa, et le thème imposé, c'était les tartelettes aux noisettes, un petit peu revisitées, un petit peu machin, donc on a 3 heures, on a les journalistes, on a les caméras, ils nous interrogent, ils nous filment, et 3 heures, c'est pas 3 heures 1. C'est un peu top chef, on lève pas les bras, mais c'est pareil, quoi. Et puis ensuite, on est noté sur la technique, sur le visuel, sur l'idée, sur le goût, etc., etc. Et à l'issue de ça, on nous contacte pour nous dire, eh ben, vous faites partie de l'aventure du meilleur pâtissier. Donc, wow. C'est vraiment, quand j'ai eu cette nouvelle, j'en revenais pas. Parce que c'est pas que j'en revenais pas par rapport à mon état. Et là, j'ai bien insisté avec M6, je ne voulais pas qu'on se serve de mon handicap pour dire, on a notre handicapé, cette année, vous avez vu, on est super chouette.
Oui.
Moi, je ne suis pas un singe à qui on lance des cacahuètes, j'ai quand même un tempérament du Sud. donc, je leur ai dit, non, moi, si vous me prenez comme faire valoir des handicapés, je ne viendrai pas. Je veux pas être ni avantagée ni désavantagée parce que bon, je me traîne quand même des roulettes, donc c'est pas facile. Mais en revanche, je veux être vue comme une pâtissière qui a des problèmes de mobilité, ce qui est complètement différent.
Oui.
Et de facto, je n'ai jamais été avantagée. J'ai eu plus de mal que les autres, c'est vrai. Mais je n'avais pas de tiers-temps. On n'est pas au CAP, hein. On n'a pas du temps supplémentaire.
Oui.
Moi, 2 heures, c'était pour les autres et c'était pour moi, c'était pareil. Et tant mieux d'ailleurs. Parce que la congélation d'un gâteau, ça aurait été facile de mettre sur le coup, j'ai des roulettes pour me laisser un quart d'heure de plus de prise, ce qui m'aurait évité d'accoucher des gâteaux plutôt que de les démouler. Mais ça, c'est autre chose. et puis voilà. Ce qui a été compliqué. Alors, heureusement, mes enfants sont grands. Donc, ils pouvaient se gérer. Parce qu'il faut savoir que quand on part dans une émission comme ça, dans un concours comme ça, on est censé partir 2 mois. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être éliminé.
Eh oui, c'est ça.
Et tant qu'on n'est pas éliminé, on est sur place.
D'accord.
Voilà. Donc, mes enfants étaient... En fait, ils étaient contents de ne pas voir leur mère, ce qui est quand même le monde à l'envers. Quoi qu'à cet âge-là, on est content de ne pas voir sa mère de temps en temps sur le dos. Mais parce qu'ils savaient que plus je restais et plus l'aventure se poursuivait.
Eh oui, tout à fait.
Pas de contact avec l'extérieur, puisqu'on nous enlève nos téléphones le matin, on nous les rend à minuit, 1h du matin quand on a fini. Ça, c'est toute la semaine. Hein. Faut bien savoir que c'est assez dense et intense et stressant et autre. On se repose le week-end sur place, donc dans l'hôtel là qui nous attribue.
D'accord.
Alors là, voilà, ça c'était un petit truc qui m'a un petit peu exclu, je vais dire, de mes copains. C'est-à-dire que l'hôtel qui réserve tous les ans n'a aucune accessibilité. Donc, ils ont été obligés de me mettre dans un autre hôtel. Alors, heureusement, il y avait des membres de la production qui étaient là avec moi. On prenait le petit-déj ensemble. Mais ils étaient obligés de me mettre dans un autre hôtel qui avait la rampe d'accès, la chambre adaptée, etc., etc. Et bon, c'est pas une exclusion non plus. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ils s'attendaient pas à avoir une candidate en fauteuil non plus.
Mais disons que l'hôtel est censé être quand même aux normes.
Voilà. Et ça, c'est mon combat d'aujourd'hui, j'avoue. C'est-à-dire qu'il y a une grande confusion entre accessibilité et adaptabilité. C'est-à-dire que l'hôtel où étaient mes collègues était accessible. Il y avait une rampe d'accès pour entrer dedans.
D'accord.
Mais pour aller dans les chambres, pas d'ascenseur, pas de ceci, il fallait me porter. Bon, ben, ça va bien. Hein. Je vais être un peu libre de mes mouvements. Quand on se retrouve en situation de handicap, la première chose qu'on veut, c'est garder son autonomie le plus possible.
Tout à fait.
Parce que on veut pas faire suer le monde, pour être correct. Se débrouiller tout seul, c'est être vivant. Enfin, moi, je me suis pas transformée en légume. Et voilà. Donc, le fait de m'avoir mis dans cet hôtel avec non seulement la rampe d'accès, mais tout adapté dans la chambre, j'ai gardé mon autonomie totale. J'ai pas eu besoin de personne pour m'aider à prendre ma douche, pour m'aider à monter dans mon lit, pour
les petits
détails de la vie quotidienne, chère Rémi.
Ben oui, c'est très important parce que. Si on peut pas faire tout ça tout seul, finalement, c'est vraiment.
C'est là qu'on est handicapé.
Exactement.
C'est là qu'on est handicapé.
C'est là que c'est handicapant, tout à fait, bien sûr. Hein.
Moi, je dis souvent, Et parce que c'est mon état d'esprit que je suis plus handicapée sans mon fauteuil qu'avec. Sans mon fauteuil, je peux pas faire mes courses. Si, je peux faire 4-5 mètres, mais, et encore. Mais je peux pas faire mes courses, je peux pas faire du shopping, je peux pas aller au cinéma, je peux pas aller au restaurant, enfin, quand ils seront ouverts, hein.
Oui.
C'est un peu, c'est un peu limitant. Mais voilà. Donc, mon fauteuil me permet de ne pas être en situation de handicap. Alors maintenant, faut pas me faire des trottoirs qui ont des marches de 20 cm. Faut pas faire des portes. Vous avez une rampe d'accès, la porte s'ouvre vers l'extérieur pour des questions de sécurité. Mais quand vous êtes en fauteuil et que vous ouvrez la porte vers l'extérieur, ben vous vous retrouvez en bas de la rampe.
Tout à fait. Et quand on a des béquilles, c'est très compliqué aussi de tirer une porte lourde en plus.
très lourde. Donc la rampe d'accès, ben les gens se sentent ah ben c'est bon, moi j'ai ma rampe d'accès, je suis accessible. Ah ben oui, mais si je peux pas ouvrir la porte.
Voilà, j'ai coché la case. Ou même la passer, oui.
J'ai l'impression d'être dans un aquarium là derrière la porte en demandant de l'aide. Et ça, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de demander de l'aide. Oui, dans les grandes surfaces, il y a pas le choix pour attraper le pot qui est tout en haut. Il y a toujours des clients. Vous voulez que je vous attrape un truc? Ah bah ouais, ça serait sympa. Je suis bon parce que là j'ai un petit problème, mais ça reste gentil. Il y a des gens de toute façon gentils, corrects. Et puis il y a des gens qui sont plus handicapés que moi dans leur tête. Voilà, qui me traitent de poufias par exemple parce que je ne vais pas assez vite sur le trottoir et que je les dérange.
Ah d'accord.
Mais oui, ça arrive. Ah ben, il faut quand même être dans la réalité. Moi, me balader en fauteuil, je m'en fiche tant qu'on me crève pas les pneus. Hein. Moi, je roule comme vous marchez. Enfin, il y a aucun problème. Je parle de ça maintenant parce que j'ai fait mon deuil, évidemment. Quand on est percuté à 90 km/h et qu'on se retrouve à ne pas pouvoir marcher du tout, à ne pas savoir même si on va pouvoir remarcher un jour, et ça pendant 3 ans, c'est quand même difficile à digérer quand on a été, comme on dit, une femme active, une maman, parce que j'ai 6 enfants quand même, à gérer tout ce petit monde. Moi, mon fils, mon dernier, était très jeune quand c'est arrivé. Il ne se rappelle d'ailleurs même pas de moi. En dehors de mes béquilles et de mon fauteuil.
Ah oui.
Donc lui, il m'a toujours connue comme ça. L'avant-dernier se rappelle un tout petit peu de moi, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, il avait 7 ans quand j'ai eu mon accident. Donc
alors, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que ton accident s'est produit et qu'est-ce qu'il s'est passé à ce moment-là?
Alors à l'époque, j'étais visiteuse médicale. Donc, visiteuse médicale, c'est beaucoup de voitures, c'est beaucoup de déplacements, c'est en ce moment, il y a un gros truc sur les lobbying pharmaceutiques, machin, ils sont là pour se faire du fric et autres. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que les laboratoires font vivre beaucoup de personnes et sauvent des vies à beaucoup de personnes. Donc, faut arrêter un petit peu de dire qu'ils sont là que pour se faire du fric, parce que si c'était le cas, ben, le cancer ne serait pas pris en charge et guéri. Le diabète, les gens mourraient à 20 ans, etc., etc. Donc là, je fais le petit truc. Et si l'industrie pharmaceutique n'existait pas, je ne pourrais pas être en fauteuil en train de parler aujourd'hui. Donc, on va se calmer là-dessus. Les gens sont bien contents d'avoir des médicaments quand ils sont malades, quand même, il semble.
C'est pas faux.
Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc, j'étais visiteuse médicale et devant un cabinet médical, je traversais la rue et une voiture est arrivée à toute barzingue. C'était dans le Morvan. À l'époque, j'habitais en Bourgogne. Et il téléphonait au volant. Donc, il ne m'a pas vue traverser la rue. Il a pilé au dernier moment. C'était trop tard. Et je me le suis pris pas de plein fouet parce que son moteur n'était pas aux normes, comme sa tête ne l'était pas d'ailleurs. Oui. Et donc et c'est le bruit de la voiture qui m'a alertée. Il devait avoir un pot percé ou je sais pas quoi. J'ai eu juste le temps d'être alertée, de stopper mon passage piéton et d'essayer de tenter de faire un bond en arrière pour l'éviter, ce qui n'a pas été complètement possible puisqu'il arrivait trop vite. Et donc, je me suis retrouvée les 4 fers en l'air, par terre, la jambe Ikea. Et quand il m'a vue par terre dans cet état-là, il a vu que j'étais vivante, peut-être, il a pris la fuite.
Bon, il avait la bonne panoplie.
La totale. Il a eu la totale. On ne l'a d'ailleurs jamais retrouvée. Mais ça arrive dans je ne sais combien de pourcentage des cas.
Oui, malheureusement.
Et moi, j'ai été prise en charge, évidemment, le plus vite possible, tout de suite, etc. Donc, je passe les années de galère avec d'abord la telle, ça va peut-être passer, puis l'arbre cache la forêt, et les neuropathies, et les nerfs bousillés, enfin bon, bref, le cortège. Donc, par contre, je vais insister sur les courses en fauteuil roulant à Garches avec les potes de combat, avec le personnel soignant extraordinaire. Avec un accompagnement psychologique quand même très très important. Et puis avec un parcours du combattant pour essayer de sauver une jambe, pour essayer d'accepter de faire le deuil. Et par rapport à ce deuil, il faut que j'insiste quand même sur un truc. On ne doit pas faire le seuil de soi. Ça, c'est important. Quand on se retrouve comme ça, avec soit un sens en moins, soit un membre en moins, soit les deux, soit les quatre, nous, on est toujours là. Hein. C'est nos jambes qui fonctionnent plus correctement, ou nos bras, ou notre tête, ou je sais quoi. Donc, on doit faire le deuil de ce qu'on était avant. Et trouver quelles sont nos nouvelles capacités. Et ça, c'est comme ça qu'on accepte et qu'on fait le deuil. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, au début, c'est toutes les étapes du deuil, hein, la sidération, la colère, la nanny, enfin bon, bref, on connaît les étapes, jusqu'au moment où on doit accepter. Je dis pas qu'il faut accepter très vite, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Si on n'accepte pas pendant 30 ans ou 40 ans, on va être aigri, en colère contre la planète entière, à accuser le monde entier, et on va se renfermer, et là, on va devenir handicapé. Dès qu'on est enfermé, on est handicapé. Si on se dit à un moment donné, comme quelqu'un qui devient aveugle, il va développer l'ouïe. Donc, il a des nouvelles capacités. Le fait de perdre un sens, on en récupère un autre. Donc, le fait d'avoir des difficultés à se déplacer, être paralysé, être comme moi avec des neuropathies insupportables à me bouffer de la morphine et des neuroleptiques, là, mais ça n'empêche pas de trouver un autre sens pour continuer de vivre. Donc, on est encore dans les sens, même si ce sont des sens moteurs. Et puis, finalement, on n'a pas le choix. C'est pas du courage, c'est simplement, ok, maintenant je suis comme ça, qu'est-ce que je vais faire de mes nouvelles capacités? Un reclassement, je vais trouver un autre métier, je vais, trouver un autre, si je peux pas, parce que la Sécu te catalogue dans, t'as plus le droit de travailler, t'es un rebut, donc tu vas être une assistée toute ta vie, à toi de voir ce que tu vas faire de cet assistanat, qui est un assistanat administratif, et qui n'est pas un assistanat moral.
Tout à fait.
Donc moi j'ai fait déjà plein de métiers avant, j'ai fait que de la reconversion, mais les gens dans la vie active maintenant, on ne fait plus un métier, on fait une profession. C'est complètement différent. Le métier c'est devenu les loisirs, la profession c'est pour gagner sa vie.
C'est vrai.
Donc certaines personnes arrivent à associer les deux. Les artistes arrivent à associer les deux. Difficile de percer, soit, mais ceux qui percent vivent de leur passion et là c'est leur métier. Mais la profession c'est une profession alimentaire. Et après, ça me permet… Alors, ma profession me permet de payer mon loyer, mes factures, etc. Et me permet aussi de faire ce que j'aime faire dans la vie. C'est-à-dire, des maquettes, des puzzles, du tricot, de la pâtisserie, par exemple. et on s'éclate après dans notre cœur de métier à nous.
Tout à fait. Et alors, du coup, toi, tu t'es reconvertie?
Moi je me suis reconvertie plusieurs fois. J'ai été pizzaïole avant mon accident. J'étais laborantine d'analyse médicale. Je devais être prof. Je m'étais inscrite à l'UFM. Et quand c'est un de mes fils qui venait d'avoir 4 ans, qui a pris une poutre de 90 kilos sur la tête. Donc l'accident et le massacre d'un enfant, je connais. Donc pendant 6 ans, ça a été 4 opérations du cerveau, ça a été des séquelles, ça a été des choses quand même très très lourdes à gérer en tant que maman. Et là, on est bien obligé d'accepter et puis d'aider son enfant à ne pas devenir un légume dans sa tête. C'est-à-dire qu'un enfant comme ça qui fait un caprice, y a pas de raison que tu fasses un caprice. Parce que tu vas profiter de ton accident, mon petit père, et que à toi, je fasse passer des choses qu'à tes sœurs, je ne fais pas passer. Donc, tu pourras toujours essayer de me faire croire que tes mauvaises notes en français, c'est parce qu'on t'a enlevé un bout de cerveau, parce que là, ils vous trouvent des trucs, mais c'est quand même impressionnant. Ah oui, mais je suis nulle en français parce qu'on m'a enlevé un bout de cerveau. Ben, j'ai dit, dis donc, ils sont forts, hein, les neurochirs, ils t'ont pas enlevé les maths. Ils ont bien visé quand même. Donc là, l'accompagnement qu'on peut donner à nos enfants, il est là. Mm-hmm. C'est ne me prends pas pour une imbécile. Et c'est un enfant aujourd'hui qui a 32 ans, qui a effectivement des séquelles et qui en aura toujours, pas motrice, mais bon, il n'entend plus d'une oreille, il a un œil fermé, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il vit très bien sa vie. Il est, on l'appelle Highlander, il devrait plus être là. Hein. 32 fractures du crâne et de la base du crâne, il devrait plus être là.
En effet.
Donc, je ne cherche même pas à savoir pourquoi il est là, mais je dis encore merci au labo, là. Hein, ils m'ont sauvé un peu mon fils, quand même. Donc, le handicap, je connais depuis longtemps. Et quand j'ai eu mon accident à moi, vu ce qu'avait vécu mon fils, je préférais l'avoir moi qu'un autre de mes enfants.
Parce que ton fils a vécu donc l'accident avant que toi, tu aies le tien.
Oui. Oui, oui, parce que quand il a eu son accident, j'avais 28 ans, donc c'était bien avant 2007, parce que je suis une vieille maintenant. je vais avoir droit à mon vaccin. Waouh, c'est la fête. Et donc, il a fallu, il a fallu gérer ça, évidemment. Mmh. Mais c'est pas, je veux dire par là, ce n'est pas grave. Il faut arrêter de dire que dès qu'on a un accident, c'est dramatique, c'est grave. Moi, j'ai vécu le regard des gens avant d'être accidentée et j'ai vécu le regard des gens au bout de 3 ans quand j'ai pu sortir enfin et de l'hôpital et de chez moi où j'étais en HAD et où j'ai pu me balader pour la première fois en fauteuil roulant. Oui. Et le regard des gens, bah, franchement, sidéré. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, je n'étais plus un être humain. J'étais un fauteuil qui dérangeait aux caisses, qui dérangeait dans la rue, qui dérangeait ceci. Les gens qui, à la limite, détournaient le regard parce que bah, ils savent pas comment regarder quelqu'un en fauteuil roulant. Mm-hmm. Ce que je comprends, hein, je suis pas là pour juger les gens, moi. Hein, mais je comprends que les gens soient gênés. Mais c'est très compliqué parce que nous, on n'a pas changé dans notre tête.
Mais oui.
On est toujours les mêmes. Mm-hmm. Et on nous garde plus pareil sous prétexte qu'on est dans un fauteuil. Mais moi, quand je suis dans une terrasse de café sur une chaise normale, on va me regarder avec un grand sourire et m'aborder. Si par contre, à cette même terrasse de café, je suis dans mon fauteuil roulant, plus personne ne me regarde. Je deviens transparente. C'est quand même magique, non?
Oui.
C'est quand même incroyable. Oui. Donc, quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, il a juste du mal à marcher, les gars. Hein. C'est pas contagieux, il a toute sa tête. Voilà. Preuve en est, c'est qu'après l'émission du meilleur pâtissier, je croise dans les rues de Salon, qui sont en plus, ça monte et ça descend, c'est pas facile de se déplacer, un collègue de fauteuil, là, qui me croise, et avec son accent merveilleux, me dit « Oh, merci, Nine !» J'ai dit « Pourquoi merci ? J'ai pas bougé, j'ai rien fait. Depuis que tu es passée à la télé, les gens me voient plus pareil. »
Wow.
Et ça, je crois que ça a été la plus belle victoire que de gagner le droit de faire le bouquin de l'émission. Parce que je me suis dit, là, c'est quand même incroyable d'avoir ce genre de remarques. Mm-hmm. Parce que mon passage, même si j'étais pas là pour militer, mais juste pour faire des gâteaux, avoir les avis des chefs et progresser, et puis passer des bons moments avec les autres, d'avoir eu ce retour-là, ça m'a beaucoup marquée. Parce que le handicap s'invite dans des missions où tout le monde peut passer. Enfin, je suis pas plus que quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas changé ma façon de faire. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai profité de ma petite notoriété quand même qui existe pour m'investir dans une association qui est sur Marseille et qui s'occupe des enfants polyhandicapés.
Oh, super.
Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, je n'allais pas passer un CAP, j'hésitais pendant un moment pour vendre des gâteaux, pour arrondir mes fins de mois de pension d'invalidité, comme on dit. Mais et puis parce que c'est un défi d'avoir un diplôme supplémentaire à 55 ans, c'est rigolo. Mais le plus gros défi, finalement, c'est de bien montrer aux gens qu'il y a une grande nuance entre accessibilité et lieu adapté.
Oui.
Moi, quand je vois qu'un endroit est accessible, mais qu'une fois qu'on y est, on ne peut rien faire, eh ben, je dis que ce n'est pas accessible. C'est un terme qui me fait bondir, ça. L'accessibilité, arrêtez avec ça, on s'en fiche. Quand vous avez des aires de jeu dans toutes les villes de France, il y a des aires de jeu pour les enfants. Il y a marqué accessible. Donc, bah, super, on y va. Mmh. Mais une fois sur place, il n'y a rien qui est adapté pour les enfants handicapés.
Ouais.
Vous vous rendez compte, c'est lui mettre son gâteau d'anniversaire sous le nez et lui interdire d'en manger, quoi.
Exactement, ouais.
C'est pas normal. Mmh. J'ai beaucoup de followers qui m'ont écrit en message privé en me disant, mais Sophie, je suis choquée de temps en temps de vos posts parce que moi, je suis maman, j'ai 3 enfants, je les emmène dans des aires de jeu et je ne me suis jamais moi-même posé la question, mais si j'avais un enfant handicapé, il jouerait où? Mmh. Il serait puni? Bon, déjà qu'il est, il a quand même un petit souci quand même de santé. Pas de santé et de mobilité, parce que c'est des enfants qui vont très bien, hein, ils sont pas malades, hein, pas forcément. Sauf ceux qui souffrent d'épilepsie, etc. Dans le polyhandicap, malheureusement, c'est lourd. Mais ne serait-ce qu'un enfant en fauteuil roulant, où est-ce qu'il va jouer? Moi, faut me dire. Donc, j'ai pris toute la partie loisir de ces enfants. Et donc, je fais des gâteaux sur commande. Je donne des cours de pâtisserie. Les gens m'appellent, j'ai envie d'apprendre à faire ça avec tel goût, pof, ben on prend rendez-vous, vous venez 4, 5, 6 heures à la maison, moi ça m'est égal, je compte pas mon temps. Et l'argent qu'ils me donnent, bien évidemment pour payer déjà les marchandises, parce que malheureusement j'ai pas les moyens de voilà d'être un mécène complet, donc ils me remboursent les courses et ils me donnent plus pour que ça aille dans la cagnotte des enfants handicapés, et là, on participe à acheter des vélos dont la roue de devant, c'est un fauteuil roulant, des casques réducteurs de bruit pour permettre aux enfants polyhandicapés d'aller au cinéma alors qu'ils ne pouvaient plus, sinon ils se faisaient des crises, d'adapter des aires de jeu en mettant des balançoires adaptées, par exemple, de créer des aires inclusives, d'aller vers les… Enfin bref, tout ce qui concerne les loisirs, les poussettes tout-terrain pour les randonnées. Parce que le problème, c'est que l'enfant lui-même est très limité dans les jeux qu'il peut faire. Mais du coup, toute la famille et la fratrie est aussi enfermée que l'enfant.
Oui.
Puisque maman ne va pas emmener ses 2 enfants valides en laissant le pauvre petit handicapé à la maison, il en fait quoi? Elle le congèle? Non. Donc, il y a une solidarité intrafamiliale et c'est très compliqué. On va confier l'enfant parce qu'il faut prendre un peu d'air en tant que maman. C'est compliqué d'être maman. Je crois que c'est le métier le plus difficile du monde et il n'y a pas d'école.
Oui.
Et quand à ça se rajoute un handicap, on n'est pas formé à être handicapé plus tard.
Et non.
Puisqu'on n'est même pas formé à aller voir dans la rue. Puisque c'est tellement mal fichu, c'est tellement pas accessible. On nous met des bouches d'égout devant les bateaux. Non, mais attendez. Donc, le seul endroit où on a le droit, enfin, où on peut passer avec le fauteuil, vous avez une grille d'égout qui nous coince les roulettes. Donc, on bascule en avant, forcément.
Oui, oui.
Alors, c'est adapté, mais c'est accessible, mais c'est pas adapté, une fois de plus.
Oui. Ça n'a pas de sens.
Donc, on n'est pas formé à être maman. On n'est pas formé à être handicapé. Double peine.
Mais oui.
Mais faut garder le sourire malgré tout ça, en fait. Parce que quand on est maman, on le sait en tant que maman. Enfin, n'importe quelle maman va dire que à partir du moment où elle a un enfant, elle sait que potentiellement, bah, elle va se lever la nuit parce que l'enfant va faire ses dents, parce qu'il va être sale et qu'il faut le changer. Donc, elle n'a plus sa vie de femme à se maquiller quand elle a envie, à faire une petite sieste quand elle a envie, puisque elle est tournée automatiquement vers son ou ses enfants.
Tout à fait.
Mais quand elle-même, elle se retrouve avec un problème, soit de santé, moi, les mamans qui ont eu le Covid, elles sont absolument pas handicapées, mais ça n'a pas été facile à gérer non plus. Hein. Donc, quand on a un problème de santé en tant que maman ou un problème de handicap qui se rajoute en tant que maman, faut gérer. Et honnêtement, on n'est pas aidé. Honnêtement, on n'est pas aidé. Quand je vois qu'à la MDPH, pour avoir ne serait-ce qu'un macaron pour pouvoir se garer sur les places handicapées, il faut 6 à 8 mois.
Ah oui, minimum.
Je peux vous dire que sur le plateau du meilleur pâtissier, je leur disais, attendez là, j'ai un problème pour aller là. Comment on peut faire? Dans les 2 heures qui suivaient, c'était réglé. Ah. Et ils ne sont pas ergothérapeutes sur le meilleur pâtissier, mais ils sont cohérents.
Voilà.
Et ils sont logiques. Ah ben oui, c'est vrai que c'est pas possible, Sophie, ça, tu peux pas le faire. Attends, on va te trifouiller un truc, on va te bricoler un truc, on va te le faire. Ils sont pas ergothérapeutes, ils sont rien. Ils sont simplement dans la réalité. Donc moi, l'administratif, entre la Sécu, la MDPH et tout ça, je sais qu'ils ont beaucoup de dossiers. Je sais qu'il y a des gens qui s'exagèrent aussi. Je sais qu'il y a des profiteurs dans les handicapés. C'est pour ça qu'on nous voit de temps en temps un peu de travers. Ah, c'est pas normal, ceci, cela. Bon, enfin, moi, il va falloir m'expliquer comment dans un Leclerc ou à Auchan, ou je ne citerai pas de maths, Carrefour, Casino, bref, les grandes surfaces où on fait nos courses, vous avez 2000 places de voitures. Et quoi, 10 places pour voiture handicapée? Mais c'est une plaisanterie ou quoi? Et en plus, on nous colle à côté des trucs de caddie où on peut même pas ouvrir les portes parce que c'est pas assez large. Donc oui, on a peut-être le droit de râler en fait au bout d'un moment, quoi.
Mais oui.
Mais on n'a pas le droit de se faire insulter parce que un jour où toutes ces places sont prises, eh ben on va se garer sur une place dite classique, que automatiquement, ben on se gare en décalé. Parce que, parce que il nous faut plus de place pour ne serait-ce qu'ouvrir la portière et prendre notre fauteuil quand même. Il faut réfléchir un peu, les gars, valide là. On a besoin de plus de place pour sortir de la voiture, c'est normal. C'est pour ça que les places sont larges. Et là, on se fait insulter, vraiment insulter, puisque ça m'est arrivé, donc j'en parle, en disant et en plus, vous êtes blonde, à vous garer comme une conne, c'est normal que les valides prennent les places des handicapés.
Ah non, mais...
C'est merveilleux, ça, quand même.
On marche sur la tête.
Ah bah, si je pouvais, ça m'arrangerait. Là, j'aurais plus de fauteuil.
Alors, est-ce que tu peux nous dire... donc, tu as 6 enfants.
Oui.
Tu les as donc eus avant ton accident.
Oui, exactement. Avant mon accident.
Et est-ce que tu as donc... ressenti des difficultés particulières par rapport à cet accident, par rapport à ce fauteuil dans lequel tu es assise maintenant? Des difficultés physiques, mais aussi peut-être autres, émotionnelles ou...
Alors, au début, oui, au début, c'était très difficile. En fait, au début, j'étais dans un lit, hein, je pouvais même pas m'asseoir. Donc, c'était très compliqué. Et donc, j'étais en HAD. Bon, j'ai fait un coma qui a failli m'emmener par-delà les étoiles. J'ai vu la Vierge, comme on dit, mais la vraie, en fait. Donc, même la mort ne me fait plus peur. Hein. On est vachement bien, je vous rassure, les gars, c'est super. Quand on revient, ça fait très, très mal. Donc, voilà. Ça me donne pas envie d'y retourner tout de suite non plus. Hein. Mais j'appréhende moins. Donc, les gens qui ont... Voilà, les personnes qui ont perdu quelqu'un... bon, je suis survenue, donc ça va, ça, je me porte bien. Mais je peux vous assurer qu'il y a une sensation de béatitude et d'apaisement rare, vraiment rare. Donc ça, c'était la parenthèse pour voilà, pour calmer un peu les esprits des deuils actuels. Maintenant, oui, ce qui est difficile, en fait, c'est de ne rien pouvoir faire pour ses enfants. Et c'est pour ça que je me suis mis à faire des gâteaux dès que j'ai pu m'asseoir, en me disant, bon, il va bien falloir que je devienne utile à mes enfants, parce qu'on a le pire sentiment, c'est pas les douleurs qu'on a, c'est pas le fait de pas bouger, c'est de devenir inutile pour ses enfants, parce qu'on se sent inutile. À part faire réviser des récitations quand on peut le faire, quand on n'a pas trop mal et qu'on n'est pas trop shooté non plus, on devient inutile. On peut plus les emmener à l'école. On peut plus. Moi, j'avais des aides évidemment pour faire ça à ma place, mais quand on doit prendre quelqu'un pour faire les choses à la place d'une maman, je crois que c'est sacrificiel à ce niveau-là. Je me sentais devenue inutile. J'avais des idées morbides parce que je ne servais plus à rien. C'est pas ne plus servir à rien en tant que femme, c'est ne servir plus à rien en tant que maman. Et je n'étais pas démissionnaire, j'essayais de faire les choses, mais je ne pouvais pas. Et c'est ça le deuil que j'ai dû faire. Je ne peux plus faire ça. Et tant que j'étais enfoncée dans le « je ne peux plus », je n'ai pas vu ce que je pouvais.
C'est ça.
Donc l'étape du « je ne peux plus », elle est, il faut la passer le plus vite possible, parce que sinon on s'enfonce. Moi, je me suis enfoncée pendant 2 ans. À pleurer sur mon sort, à me dire que c'était trop injuste, tout en ayant quand même cette petite la petite coccinelle de Gottlieb là sur l'épaule qui dit oui mais t'as dit que tu préférais que ça soit toi que tes enfants. C'est ça qui m'a aidée. Et puis j'ai vu cette émission du meilleur pâtissier qui passait. J'ai demandé à mes aides de m'aider à faire les courses pour essayer de faire un gâteau en position assise. Donc là, pareil, on se débrouille et puis on se rend compte que c'est possible. Et tout d'un coup, les enfants nous regardent avec un grand sourire. Maman, c'est toi qui l'as fait. D'un air de dire, t'as vu que t'es encore capable de faire des choses.
Et oui, et oui.
Et là, on remonte. Alors, que ce soit des gâteaux, que ce soit n'importe quoi, hein, mais on peut toujours faire des choses. On a toujours les moyens de faire quelque chose, handicap ou pas handicap d'ailleurs. Hein. Je crois que le plus grand handicap, c'est les freins qu'on se met dans la tête.
Oui.
Il y a plein de gens, hein, moi, qui me disent, oh là là, moi, j'aimerais le faire le meilleur pâtissier, mais j'ose pas.
Mais
bah
oui.
Ouais, bah, vous êtes plus handicapé que moi. Voilà, c'est tout. Vous avez passé au moins le casting. Enfin,
mais oui.
C'est mon rêve de faire ça. Bah, pourquoi vous le faites pas? J'ose pas. Ah bon? Ben, vous êtes handicapé.
Et oui.
Voilà. Faut une carte. Faut faire un dossier MDPH. Motif, j'ose pas. c'est pas méchant ce que je dis, mais bon, c'est.
C'est beaucoup dans la volonté, hein.
Moi,
c'est
j'aime vrai. Les réactions des gens beaucoup. Mais tout est dans. C'est pas une question de courage. Pour moi, le courage, c'est de mettre un élastique au pied et de sauter d'un pont pour voir ce que ça fait. Ah ben, moi, je vous assure, j'ai aucun courage. Hein. Je ne fais jamais ça. Hein. Moi, je la trouille, hein. Oui, je suis pétocharde comme c'est pas permis. Mais quand vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le choix, bah c'est pas du courage. C'est qu'il faut y aller, c'est tout.
Et oui.
Enfin, moi, c'est ma notion du courage. Elle a sûrement changé, elle a sûrement évolué. Mais oui, moi, le courage, je sais pas, c'est de faire une course de voiture à 400 km/h. Mais moi, j'aurais une trouille, sauter en parachute, mais même pas en rêve. Je suis une grande trouillarde, moi. C'est pas que j'ai peur de mourir, c'est que ça me fait peur, j'ai le vertige.
Et oui, et oui.
Mais le combat pour continuer de vivre, moi, j'ai pas changé de vie, hein, je suis toujours la même. J'ai changé de mode de déplacement, j'ai pas changé de vie.
Tout à fait.
Sans mon fauteuil, je suis handicapée. Et alors oui, on passe en priorité. Alors je voudrais dire à une dame là que j'ai croisée si elle entend que c'est une conne et je le dis haut et fort parce que oser dire à une caisse prioritaire quand il y a une queue de 20 mètres là et que on arrive avec notre Tetris sur les jambes pour faire les courses, que les handicapés ont de la chance de passer en priorité aux caisses.
Ouais.
Ce à quoi je lui ai répondu que la grande différence entre elle et moi, c'est que moi, je savais que j'étais handicapée. Voilà. Phrase de Petrucciani que j'ai reprise à bon escient. Elle a changé de caisse parce que tout le monde a éclaté de rire. Mais tout ça pour dire que les gars, faut se calmer. Non, nous n'avons pas de chance de passer. Je préférerais faire la queue, moi, aux caisses.
Oui.
Voilà. Comme tout le monde. Je suis comme tout le monde. Je suis une maman, j'ai des enfants, je fais un maximum pour eux, je les amène à l'école, je vais les chercher au terrain de basket, je leur fais à manger, voilà, c'est plus compliqué, oui, parce que j'ai beaucoup de difficultés, j'ai très mal, etc., etc., mais eux, ça leur a donné le permis fauteuil roulant, d'ailleurs, ils sont très très forts hein, pour ça, ils me poussent vachement bien, ils ont trouvé tous les trucs. Hein. Donc eux, ils ont aussi des nouvelles capacités, c'est-à-dire qu'ils ont dû trouver une autonomie beaucoup plus tôt.
Et oui.
Donc là, automatiquement, ils apprennent à se faire à manger quand je ne peux absolument pas me déplacer. De temps en temps, ils vont faire les courses eux-mêmes. Alors c'est vrai que maintenant, ils sont grands, mais de tout petit, je peux vous dire qu'à 9 ans, mon fils savait faire cuire des pâtes. Hein. Et se faire griller un steak. À 8-9 ans, il n'y avait aucun problème pour ça. Parce qu'ils n'avaient pas le choix.
Quel âge ils avaient ?
Quand j'ai eu mon accident, mon petit dernier, Charles avait 3 ans.
D'accord.
C'est petit. Mon avant-dernier avait 7 ans.
Et le plus grand ?
Ah ben, la plus grande, quand j'ai eu mon accident, c'était en 2007. Quel âge avait-elle en 2007 ? Elle avait 21 ans. Donc, elle vivait sa vie. Ils étaient déjà partis, mes grands. J'en avais plus que 3 à la maison.
Oui.
3 sur 6. Mais pareil, quand je les recevais à Noël et tout ça, mais je dansais le rock en fauteuil roulant avec mon fils. Moi, j'ai des photos extraordinaires. Je suis en train de danser le rock en fauteuil. Toute maquillée, toute pomponnée. Oui, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on est en jogging. Non, c'est bon, là.
Mais moi,
quand je sors, je me maquille, je m'habille. Je reste féminine, même si, alors après, il y a la vie de maman, puis il y a la vie de couple. Ah, ça, c'est une autre paire de manches. Là, ouais. Bah, voilà, on accepte ou on n'accepte pas.
Mm.
Bon, moi, c'est pas passé. Hein. J'avoue que c'est pas passé. Bon, je me suis fait taper dessus aussi. Hein. C'est très sympa. Hein. Voilà, il y a eu des représailles quand même parce que je ne me suis pas laissé faire au niveau de la justice. Donc, oui, j'ai été une femme battue aussi, malgré mon état. Donc, ça peut arriver aussi que... Je crois qu'il n'y a pas de sélection hein, sur les hommes violents. Ils ne cherchent pas à savoir si on est handicapé ou pas. Ils tapent. Bon. Ou une bascule, ou enfin bon, bref. Bon, après, c'est à la justice de faire son boulot. C'est pas à moi. Moi, j'élimine dans ces cas-là. C'est pas parce que je suis handicapée que je vais me laisser faire. Hein. Non, 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 c'est bon, là. Ça va. Et puis, ce terme d'handicapé, c'est un terme administratif pour moi. Je reviens là-dessus, mais c'est important de le dire. Je ne me sens pas handicapée, moi. Voilà, moi, mes enfants, ils m'appellent Roulette, hein. Moi, j'ai un de mes fils, il m'appelle Roulette, tu viens, on fait ci, on fait ça. Moi, je trouve ça rigolo, moi. Roulette, c'est mignon quand même. Mon prénom de grand-mère, c'est Mounette. Ouais, ben, je trouve que ça rime, hein, c'est bien. C'est dans le même. Voilà, et puis il y a. On relativise, il faut relativiser les choses, hein, quoi qu'il nous arrive. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai pris beaucoup de recul, oui, mais. Est-ce que c'est plus compliqué d'être en situation de handicap avec des enfants ou est-ce que c'est plus compliqué d'être valide et de se retrouver avec des quintuplés? J'ai un gros doute là-dessus. Hein. Je dis pas que c'est handicapant d'avoir des enfants avec une grossesse multiple. Bah, pas du tout, j'ai des frères jumeaux, donc non. Mais voilà, c'est une question d'organisation, tout simplement.
C'est ça.
C'est compliqué. C'est, tout d'un coup, on est basculé dans la quatrième dimension. Que ce soit un problème de motricité ou un problème de grossesse multiple ou un problème de bah, tout va bien et puis on est confronté à un de ses parents qui est lourdement handicapé et qu'on accueille chez soi. Va falloir jongler aussi, mais la vie est un énorme champ de jonglage.
Tout à fait.
Quoi qu'il arrive.
Lorsque tu as eu ton accident, donc ton mari, enfin le père de tes enfants, était présent à la maison pour aider ou pas du tout? Comment alors, ça s'est passé?
Moi, j'ai une vie d'artiste. Hein. Moi, j'ai une vie d'artiste, c'est-à-dire que les trois enfants que j'avais à la maison, j'étais séparée du papa.
D'accord.
Et donc, je vivais avec quelqu'un dont ce n'était pas le père, mais dont je recevais à la maison ses propres enfants.
D'accord.
Vie d'artiste. et donc lui au début, bah il a géré comme il a pu et puis quand mon état s'est fortement aggravé puisque l'arbre cachait la forêt, et ben c'est là que ça a tourné en cacahuète.
Bon. D'accord.
C'est son problème. Ça a été le mien un moment. Maintenant j'ai passé le cap. La justice, fait ses affaires et puis. Et puis je m'attarde pas dessus, j'en ai pas parlé. Pour tout le monde, je suis en fauteuil parce que j'ai eu mon accident, mais en fait, je suis en fauteuil parce que j'ai eu mon accident, que j'arrivais à m'en remettre et que je marchais à nouveau avec des béquilles et que lui m'a massacré supplémentairement. Donc, je suis définitivement en fauteuil.
D'accord.
Alors, ça a passé à la télé, ça aurait peut-être fait beaucoup d'informations pour les gens, puis ça reste une émission familiale, et puis je n'avais pas envie qu'on me voie comme une martyre de la vie, surhandicapée, parce que ça n'a aucun intérêt de savoir pourquoi on se retrouve en fauteuil. Ça change pas la donne,
non.
Ça change pas le fait que je me balade en fauteuil et d'en parler sans arrêt. Oui, ça peut exister, donc mesdames qui vous faites taper sur la tête, fuyez avant de vous retrouver dans un fauteuil ou dans une caisse.
Oui, oui.
Donc, c'est vrai que les situations sont pas simples. Oui, mais je n'ai rien. Je vais me retrouver à la rue. Non, faux. Vous allez voir une assistante sociale, vous allez voir des gens qui vont vous aider pour vos enfants, pour votre santé et pour la santé de vos enfants. Fuyez. Voilà. Appelez-moi, contactez-moi sur Instagram. Je vous dirai, je vous aiderai, je vous soutiendrai, mais vous avez des enfants handicapés, vous savez pas comment faire pour un truc, n'hésitez pas à m'appeler. Moi, je suis bénévole professionnelle maintenant. Je fais des macarons pour le cancer, je fais des gâteaux pour les enfants handicapés. J'ai un but à ma vie, en fait. Je n'en avais plus, puisque c'est la sécurité sociale qui m'a interdit d'avoir une vie sociale.
C'est ça.
Et c'est le meilleur pâtissier qui m'a redonné une vie sociale. Non, mais ça vaut tout. Je suis finaliste en plus, mais moi j'ai tout gagné là-dedans. Mmh. Et puis le bouquin, j'allais en faire quoi? Mais je suis tellement fière que Camille ait gagné. Elle a tellement de talent, elle est tellement gentille, elle est tellement, enfin, c'est un ange cette fille. Une bête de boulot, toujours de bonne humeur. Enfin, voilà. Moi, là, elle m'a contactée. Elle vient de sortir son deuxième livre. Sophie, est-ce que je peux te l'envoyer? Ça me ferait plaisir. Non, mais tu rêves. Mais bien sûr, tu me demandes même pas l'autorisation. Envoie-moi ton bouquin. Je suis trop contente.
Ouais, c'était une super saison, ouais.
Donc des gens comme ça, ouais, avec une humanité pareille. Quand Momo, enfin moi, je me rends compte que c'est là que les gens regardent beaucoup ce qui se passe à la télé. Quand Momo a été éliminée, il y a plein de gens qui ont dit sur les réseaux du meilleur pâtissier, mais qui va pousser Sophie? Les gens s'étaient rendus compte que c'était tout le temps Momo, majoritairement, qui me poussait. Mm-hmm. Anissa, de temps en temps, enfin, c'est quand même dingue d'avoir remarqué ça. Mm-hmm. Et alors que les gens n'ont pas du tout remarqué de quelle couleur étaient les chaussures des uns et des autres quand ils avançaient. Mm-hmm. Par contre, tout le monde a remarqué que c'était Momo qui me poussait. Oui. Ben, bravo, quoi. Ben, les gens, vous avez des yeux pour voir, c'est bien. Et ça montre aussi la bonté et puis la bonne entente hein, qu'il y avait dans ce groupe-là.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Donc, être maman handicapée, ben, c'est être maman. Point. Mm. Parce que le handicap, quand on est maman, eh ben, il est comme quand on est maman malade, on passe au-dessus. Mm. On s'adapte.
C'est ça.
Comme n'importe quel animal. Bon, il faut pas oublier qu'on est des animaux qui parlent hein, au départ. Hein. Donc, c'est ça, la grande différence, elle est là. Hein. On n'est qu'un animal qui parle, en fait. Notre mode de communication, c'est la parole. La mode de communication des fourmis, c'est de se frotter les antennes. Les abeilles, c'est de voler en X ou en Y. Mais du moment que nous, on a la parole, on est vachement plus fort que les autres. Bon, bref. Mais tous les animaux s'adaptent à leur état, à leur situation, au climat, comme on le fait nous. Mmh, mmh. Donc, maman handicapée, eh ben, c'est peut-être avoir peut-être un petit problème supplémentaire. Vous savez, quand on a 6 enfants, on en a déjà géré pas mal des problèmes. Hein, donc maman qui a du mal à se déplacer, on forme une espèce de micro-société à 7, puisque le 8e, donc, je l'avais mis dehors quand même, faut pas exagérer. Et à partir du moment où cette micro-société marche avec ses règles, c'est ci, c'est là, enfin, comme toute société, il y a une entraide qui se forme. Mm-hmm. Moi, mes enfants se battaient pour pousser mon fauteuil dans la rue.
Ah oui.
Non, c'est mon tour. Non, c'est mon tour. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ce sont mes petits-enfants mm-hmm. qui se battent pour me pousser. Donc, je retrouve exactement le même instinct des enfants. Mm-hmm. L'instinct des enfants, c'est pas d'être, comme on le dit souvent dans les cours, la cruauté des enfants, ils sont méchants. C'est pas vrai. Les enfants, et moi je le vois au centre, avec les familles. La présidente de l'association Polymôme a un enfant polyhandicapé et qui a des frères. Mais les frères, ils aident le frère, ils ne voient même pas le handicap du frangin. Hein. Et les sourires, ils sont là, et les machins, et ils se marrent, ils se chamaillent comme tous les enfants. Enfin, c'est extraordinaire de voir ça. Mmh. Donc, les enfants, ils sont pas du tout cruels. Hein.
Non.
Si, ils vont se moquer, mais ils vont se moquer parce que t'as une chaussette rouge et t'as une chaussette bleue. Ils vont pas se moquer parce que t'es handicapé. Hein. Ils s'en fichent de ça.
Hein. Oui, oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes moments ou tes personnes, ou ce que tu as en fait eu comme ressources parfois dans tes moments difficiles, que ce soit au début ou bien encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui te permet de garder le sourire, d'avancer ou de passer les moments pas évidents quoi.
Je crois que la première chose qui me vient en tête, je veux dire que c'est l'éducation de mes parents.
D'accord.
Parce que quoi qu'il arrive, toujours l'humour, l'éducation de mes parents, parce que je viens d'un milieu artistique où j'ai vu mon père aller chanter avec 39 de fièvre, à se faire des piqûres. Il était ténor, donc un opéra sans ténor, c'est plus un opéra. Hein, c'est, voilà. Et pour éviter de mettre tous les autres artistes en chômage technique, il trouvait ses ressources. C'est-à-dire que il se faisait des piqûres de cortisone, il buvait thé miel citron, je me rappelle encore de ces thermos là, et c'était marche ou crève, comme la Légion. C'est t'es malade, t'y vas quand même. Et ça, on me l'a pas dit, je l'ai vécu, je l'ai vu. Donc pour moi, c'est la normalité en fait. Donc la première ressource que j'ai eue, c'est déjà dans cette famille, on ne se plaint pas, jamais. À l'enterrement de ma mère, on n'avait pas le droit de pleurer quand même.
Ah oui.
Non, c'est tu saignes en seigneur et tu pleuras dans ta chambre, mais pas en public. Ok, donc on est éduqué dans cette truc-là. Mmh. Et alors oui, voilà, moi-même j'ai pleuré, mais dans mon coin. Et parfois on me dit, mais tu as mal ? Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con ? J'ai mal 365 jours par an, 24 heures sur 24. Mmh. Arrêtez de me dire, est-ce que j'ai mal ? La réponse, elle est oui, mais à quoi ça sert que j'en parle ? Ça sert à rien, à part de que les gens me regardent avec cette espèce de compassion, « Oh, ma pauvre !» Et ça, je veux même pas l'entendre. Donc, voilà, ça, c'est dans l'éducation que j'ai eue. C'est pour ça que c'est la première réponse qui me vient à l'esprit. Et puis après, ce qui m'a soutenue beaucoup, j'ai eu une société qui était venue là pour m'installer, parce que j'étais à étage, dans une maison à étage, donc ils m'ont installé un ascenseur handicapé. Et puis moi, je râlais, j'étais encore perdue dans ma noirceur je suis handicapée. J'avais pas compris que c'était administratif, mon idée. Hein. Et je ne voulais pas voir la rampe dans la douche. Je voulais pas voir. Bref, j'avais pas envie que ma maison se transforme en centre de rééducation. Mmh. Et parce que ça me ramenait à mon handicap dans ma tête. Et là, j'ai eu cette remarque extraordinaire d'un des deux gars là qui était là. Il me dit, tu es en train de me dire que tu ne veux rien voir dans ta maison qui te rappelle ton handicap. J'ai dit oui, ça me le rappelle trop, ça me le met à la figure. Il me dit très bien, maintenant tu te lèves et puis tu vas à ta cuisine. Ben je peux pas. Ben tu peux pas, pourquoi? Parce que tu n'as pas les outils qu'il faut. Ben j'ai dit oui, donc t'es handicapé si tu n'as pas les outils. Oui, il dit ça te ramène pas plus à ton handicap ça? Que de voir des choses et de pouvoir t'en servir. Et c'est là que j'ai eu un déclic et un décrochage énorme, que effectivement je suis complètement débile. C'était l'inverse.
Voilà.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, je me sens moins handicapée avec mon fauteuil, qui me permet de faire plein de choses.
Tout à fait.
Donc voilà, la deuxième chose qui aide, c'est les outils. Ils existent, on cherche sur Internet, on se les prend, on les utilise et on est beaucoup moins handicapé.
Tout à fait.
Attends, il y a des personnes, ils peuvent pas ouvrir une boîte, un bocal, parce qu'ils ont plus de force dans les... Moi, j'ai un poignet aussi qui a été abîmé, j'ai un bras qui a été abîmé, donc j'ai des névralgies cervico-brachiales qui sont assez intenses parfois. Au lieu de prendre ma casserole ou ma cuve, comme on voyait faire dans Le Meilleur Pâtissier, je le prends complètement dans mon bras, dans le pli de mon coude, parce que je peux pas me servir correctement de ma main et de mon poignet. Donc, on trouve toujours les moyens. C'est comme dans Jurassic Park, la vie trouve toujours son... C'est pareil.
Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à certaines personnes qui peut-être vont se reconnaître dans certaines choses que tu aurais pu dire ? Est-ce que tu aurais un conseil pour finir cet épisode ?
Alors déjà, j'espère qu'elles vont se reconnaître. Alors déjà, si elles sont en situation de handicap et qu'elles se reconnaissent dans ce que je dis, je fais youpi, salut les copains, parce que c'est génial. Ceux qui vont dire ouais, mais elle fait du cinéma, parce qu'on peut arriver, hein. Moi j'ai tout. Ouais, mais attends, elle fait du cinéma, c'est quand même pas facile de se balader en fauteuil, c'est quand même pas simple. J'ai jamais dit que c'était simple. Hein. J'ai jamais dit ça. Évidemment que c'est pas simple. Évidemment que je vais pas changer le regard des gens. Parce que le regard des gens est basé sur quoi ? On ne voit pas les handicapés dehors parce que l'accessibilité est ridiculement basse, que rien n'est adapté. Donc, plutôt que de se casser les pieds à prendre 3 heures pour aller chercher une baguette de pain, on envoie quelqu'un qui, lui, met 2 minutes. Donc c'est pour ça qu'on nous voit pas. Je suis allée en Espagne, je vois plein de fauteuils roulants partout. J'ai dit bah tiens, il y a un centre dans le coin ou quoi ? Non, c'est tout simplement que c'est tellement bien adapté que tout le monde a le droit de sortir. Le droit à l'accessibilité, à l'inclusion et à toutes ces choses-là. Enfin, c'est comme les jeux pour les enfants. Le droit de jouer est pour tous les enfants, mais pas pour les enfants handicapés. Mais il y a un problème là. C'est pour ça que je me suis investie autant et que je continue de le faire. Donc, les gens vont peut-être se reconnaître dans ce que je dis parce qu'ils connaissent la complexité de la chose. Ils connaissent, ils savent très bien qu'à la MDPH, moi, on me met des PV alors que j'ai mon macaron handicapé, que je suis sur une place handicapée. Et à chaque fois, je dois envoyer des recommandés. Non, mais arrêtez les gars, quoi.
C'est incroyable, ça.
Tout ça parce qu'il faut écouler le carnet. Non, ça va, ça suffit. Donc oui, on a de l'administratif du coup en plus à faire. Sans arrêt, on doit justifier pour continuer de percevoir sa pension d'invalidité. On doit justifier qu'on est toujours handicapé. Ben oui, mais c'est vous qui m'avez collé comme ça avec l'interdiction de travailler. Maintenant, vous me demandez si je travaille. Donc il y a une espèce d'incohérence administrative totale en France à tous les ans là dire ben oui, je suis toujours handicapé. En fait, le handicap c'est un statut qu'on a. On peut pas être licencié, les gars. Hein, je signale en passant, on peut pas nous virer de notre handicap. Hein. Voilà. C'est comme quand on touche une pension de retraite, on peut pas nous licencier. Hein. On est à la retraite définitivement en fait. Donc arrêtez de demander des justificatifs. c'est complètement ridicule. Mais les gens qui ne se reconnaissent pas ou qui se rendent pas compte, parce que il y a beaucoup de gens valides qui vont écouter ça, le regard sur le handicap, je vais pas prôner, ouais, il doit changer, ouais, il doit si, mais il faut juste se mettre à la place. On peut pas se mettre à la place de quelqu'un handicapé, ça, ce n'est pas vrai. Mais on peut simplement imaginer que quelqu'un qui est dans un fauteuil, ça reste un être humain. Et ce n'est pas parce que la chaise a des roues que ça n'en est plus un. Donc moi, ça me fait plaisir quand je suis dans les grands magasins. Alors c'est vrai que moi, c'est un peu différent maintenant parce que les gens veulent faire des photos. Bah, tout d'un coup, je suis devenue un être humain avec le meilleur pâtissier. Ils veulent des autographes, ils me félicitent et patati. Et ils ne voient plus mon fauteuil. C'est quand même extraordinaire. Cette émission a rendu mon fauteuil invisible. C'est quand même dingue. Mais les autres personnes handicapées, vous savez, elles sont comme moi en fait. Hein. Non, voyez la personne, ne voyez pas le fauteuil. Et si vous-même vous êtes en situation de handicap, parce que ça peut arriver à tout le monde finalement de se faire renverser par un chauffard qui téléphone au volant ou autre. Oui, vous allez faire le deuil. Oui, ça va être dur. Oui, ça va être long, plus ou moins en fonction des gens. Moi, ça m'a pris 3 ans. Bon, c'est quand même assez long, hein. Mais dans l'histoire d'une vie, c'est court. Cherchez vos ressources et cherchez vos capacités. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Et à partir de là, vous allez arrêter de pleurer sur qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire.
Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, pour ce bon moment de partage, très, 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 très enrichissant et avec beaucoup d'humour, ça fait du bien, qui donne vraiment de l'espoir.
Oui, mais je crois que c'est la principale ressource. Garder son humour et ne pas le mettre au rebut. On n'a pas le handicap de l'humour, hein. Déjà dans la famille, on l'a pas. Mais le recul, ça va, c'est bon. On va pas en faire un fromage quand on se retrouve dans un fauteuil, quoi. C'est bon. On a autre chose à faire de sa vie que de se plaindre, hein, il me semble. Mais bon, après, ça appartient à chacun le choix. Hein. Moi, je dors pas la nuit parce que des fois, j'ai des douleurs épouvantables qui me réveillent. Et ben, je fais une sieste. Voilà.
Voilà, la capacité d'adaptation.
Nous ne sommes que des animaux, nous nous adaptons, sinon nous crevons.
Et oui, on est bien obligés.
L'équation est simple là, tu t'en sors ou tu crèves. Voilà, c'est un choix.
Alors en tout cas, avec grand plaisir que je pourrai publier cet épisode et je mettrai en lien des petits extraits avec plaisir du meilleur pâtissier. Pour qu'on puisse te revoir un petit peu.
Oui.
Ça sera chouette.
Ouais, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, je ne le dis pas en l'air, hein. Les gens peuvent me contacter. Ce n'est pas parce que j'étais derrière un écran que je ne suis pas la même que celle que je suis. Donc, que les gens n'hésitent pas à me contacter. voilà, ne serait-ce que pour parler ou parce que des fois quand on a la tête dans le guidon, on voit pas les évidences. On est trop enfermé. Et de temps en temps, bah oui, mais vous me dites ça, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Et tac, ça peut lancer un truc. J'ai plein de gens comme ça, hein, qui n'hésitent pas à me, voilà, ne vous filez pas des handicaps supplémentaires ou ne vous en filez pas si vous n'en avez pas, pour aider un membre de sa famille, pour aider un enfant, pour aider, voilà, on trouve toujours des solutions. Et puis ne serait-ce que pour rigoler un peu, ça fait
tout
pas
à fait.
Rigoler aussi quand même.
C'est vrai que tu es très 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 accessible.
Ah ben il y a pas de souci avec ça. Ouais. Au contraire.
Merci beaucoup Sophie.
Avec plaisir, avec plaisir. Belle journée.
Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et pour que ce podcast ait plus de visibilité, vous pouvez le partager à vos amis, votre famille, vos collègues et même vos voisins. Si vous désirez témoigner vous aussi de votre histoire de parent ou même votre désir de parentalité, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram parent.cap au pluriel et sans accent ou à l'adresse mail parentcap au pluriel @gmail.com. Retrouvez tous les détails en barre d'infos. Et n'oubliez pas, nous sommes tous de super parents. Oui, des parents capés.